Allez, il est 19h30 ici, à Paris, l'heure est au débat sur RFI.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et ce soir, nous questionnons nos usages d'Internet. Les réseaux sont partout aujourd'hui dans nos vies, pour le meilleur, mais également, parfois, souvent, diront certains, pour le pire, car Internet, c'est aussi de la désinformation et la porte ouverte vers les discriminations, le harcèlement notamment. Face à cela, une voix s'est faite récemment entendre en France, celle de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, qui a lancé un appel en faveur d'un rationnement d'Internet. Alors, c'est notre question ce soir, est-ce qu'il faut rationner Internet face aux fléaux que peuvent représenter les réseaux ? Comment procéder ? Et n'y a-t-il pas d'autres possibilités pour réguler notre consommation de gigas ? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Anna Lombert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du Conseil national du numérique, maître de conférence en philosophie à l'Université Paris 8. Votre livre « Schizophrénie numérique, la crise de l'esprit à l'ère des nouvelles technologies ». Face à vous, Renaud Éluin, bonsoir.
Bonsoir.
Vice-président de l'association Green IT, qui est un collectif d'experts de la sobriété numérique, c'est un terme auquel vous êtes très attaché, et du numérique responsable et directeur de Nova Gaia, qui est une agence digitale responsable. Notre troisième invité est au cœur de ce débat, elle est en ligne avec nous. Bonsoir Najat Vallaud-Belkacem.
Bonsoir.
Ancienne ministre de l'Éducation nationale, je te disais, directrice de l'ONG One, présidente de France Terre d'Asile et donc autrice de cette tribune intitulée « Libérons-nous des écrans, rationnons Internet ». Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Pour commencer, je vais citer vos mots, Najat Vallaud-Belkacem, les mots par lesquels vous débutez cette tribune, donc dans le Figaro, publié le 18 mars dernier. Vous écrivez, je cite, « J'ai un problème, vous avez un problème, nous avons un problème. Celui-ci est à la fois évident, c'est un problème, et en même temps, nous avons tendance à ne pas le voir. Il est envahissant, et en même temps, nous le chérissons. Nous le subissons, mais nous refusons qu'on le résolve. Ce problème, c'est celui de nos rapports aux écrans et plus concrètement à Internet. » Voilà, fin de citation. Najat Vallaud-Belkacem, en quoi avons-nous un problème dans nos rapports aux écrans ? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on peut affirmer ceci ?
Je pense que c'est une perception assez largement partagée, à vrai dire, que ce soit d'ailleurs s'agissant des enfants, hein, de la consommation des enfants ou de la consommation des adultes, on se rend bien compte que ces dernières années, on est allé vers toujours plus de temps d'attention consacré finalement à ces écrans qui ont développé par ailleurs les contenus hein, en question, les algorithmes, les différentes plateformes ont développé des techniques extrêmement élaborées pour retenir notre attention de plus en plus longtemps, notamment à scroller sur les réseaux sociaux. Et donc, ça interroge quand même finalement le sens qu'on met dans cet Internet, dans ce numérique qui a bien des égards à faciliter nos vies, certes, mais quand on regarde la dimension dite récréative de ce numérique, qui crée aussi beaucoup de problèmes. Évidemment, la mobilisation de notre attention, mais aussi toute une série de cyberharcèlement, de hypersexualisation des filles sur les écrans, tous ces problèmes auxquels chaque famille est confrontée aujourd'hui. Et c'est pas par hasard que le sujet numéro un de tension dans chaque famille, c'est quand même le temps qui est passé devant les écrans.
Ouais, le temps qui est en moyenne, alors en France, de 2h18 par jour sur Internet, mais beaucoup plus pour les jeunes, on parle de 4h par jour. Vous dites, Najat Vallaud-Belkacem, dans votre tribune, que tous les grands maux de nos sociétés sont liés à Internet. Vous citez l'écologie, les discriminations, les inégalités, le harcèlement. Je voudrais vous faire réagir, Renaud Éluin. Première réaction sur le constat dressé par Najat Vallaud-Belkacem qui évoque une urgence numérique. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
Oui, bien sûr, il y a une urgence sur le numérique, mais pas que, sur l'écologie en général. Et le numérique, c'est un des éléments qui impacte l'écologie, puisque c'est 4% à peu près. Donc oui, il faut agir. Après, les moyens diffèrent et... est-ce que on considère que limiter les gigas c'est la bonne solution ?
Ça, on en va en parler.
C'est une autre histoire.
Mais est-ce que, à quel niveau il faut placer la dangerosité d'Internet aujourd'hui ? À quel point c'est un fléau ?
C'est un fléau parce que ça consomme de l'énergie, ça consomme des ressources. On fabrique nos appareils, on change nos appareils, et à chaque fois, c'est au moins 80% de l'impact écologique de toute sa vie est fait avant même d'être sorti du carton, puisque c'est à sa fabrication. Donc, plus on aura, c'est la matérialité de tout ça qui fait que le numérique a un impact sur l'écologie,
donc,
sur
la planète. Donc la menace, elle est d'abord écologique avant d'être
C'est plus
intellectuel.
C'est plus ma partie. C'est plus ma partie, le côté écologique et du numérique. Après, le temps d'attention, on en parle aussi régulièrement au Green IT. C'est pour ça que nous, dans les bonnes pratiques, quand on donne comment on conçoit une application, on essaie d'éviter le scroll infini, donc le fait qu'on puisse passer des heures à descendre sur une page en ayant toujours des vidéos, des photos, des trucs à lire, des choses comme ça. Donc oui, ça fait partie des bonnes pratiques de ne pas capter l'attention. Pour différentes raisons, pour le côté écologique, et puis aussi pour le côté social, arrêter de rester dans sa bulle, interagir avec les autres, et puis éventuellement tout ce qui est fake news, et voilà.
Anna Lambert, membre du Conseil national du numérique, est-ce que pour vous on a atteint un point de non-retour dans la présence, est-ce que véhiculent les réseaux sociaux en tête, Internet en général?
Non, je crois pas du tout qu'on ait atteint un point de non-retour. Je pense au contraire qu'il faut continuer à se battre, en fait, pour...
Un point de non-retour dans ce que je veux dire, dans la présence. Est-ce qu'on nous sommes dépassés aujourd'hui par les écrans, par Internet? Et est-ce que finalement, ce qui est proposé par Internet est tiré de plus en plus vers le bas?
Alors,
c'est pour rejoindre le constat d'urgence numérique.
Oui, alors je pense moi aussi qu'il y a urgence là-dessus, je suis d'accord aussi. Cela dit, moi je parlerai pas forcément d'Internet ou des écrans de manière générale, mais plutôt du problème qui a été évoqué juste à l'instant, dans les deux interventions précédentes, de l'économie de l'attention. C'est-à-dire en fait des entreprises qui sont des entreprises privées monopolistiques, la plupart du temps, enfin quasi monopolistiques, excusez-moi, qui ont pour modèle d'affaires en fait le fait de capter nos attentions et nos données pour les revendre à des entreprises pour faire du ciblage publicitaire quand ce n'est pas de la propagande politique. Donc ça, c'est un véritable problème, et il est vrai que cela passe par Internet, par les réseaux sociaux notamment, mais je rappelle que tous les réseaux sociaux ne fonctionnent pas sur ce modèle économique-là, ce modèle économique suppose aussi de mettre en œuvre un certain nombre de technologies persuasives, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Nous avons écrit un rapport au Conseil national du numérique qui est paru il y a 2 ans, je crois maintenant, ou 1 an, sur l'économie de l'attention, qui s'intitule « Votre attention, s'il vous plaît, quel levier face à l'économie numérique de l'attention ?» Et le but, c'était précisément de cibler, en fait, ces modèles d'affaires-là, ces technologies persuasives-là, qui sont conçues, en fait, pour contrôler nos pensées et pour contrôler nos comportements, et donc, évidemment, pour nous faire rester le plus longtemps possible sur telle ou telle plateforme. Mais encore une fois, vous voyez bien qu'une encyclopédie collaborative comme Wikipédia, par exemple, c'est du numérique, c'est de l'Internet, et pourtant, ça n'a pas du tout les mêmes effets nocifs, ni en termes d'écologie mentale, donc ni pour nos facultés psychiques ou intellectuelles, ni en termes d'écologie sociale, et ça n'a pas non plus les mêmes enjeux en termes d'écologie environnementale.
Évidemment, qu'un TikTok par exemple, le réseau social qui est souvent montré du doigt. Donc face en tout cas à cette trouble de l'attention générée par ce tout Internet, Najat Vallaud-Belkacem, vous proposez de rationner Internet. Donc c'est cette proposition qui a été beaucoup commentée, qui a fait beaucoup de bruit, que vous avez exprimée dans une tribune récemment dans la presse. Est-ce que vous pouvez nous la présenter déjà? Comment on peut rationner Internet?
Alors, très concrètement, ce que j'écris, moi, dans ce texte, c'est la nécessité, mais urgente, qu'on ait une conversation publique sur ce sujet. Moi, j'adorerais, par exemple, qu'il y ait une conférence de consensus, comme il y en a eu sur la question du changement climatique ou sur la question de la fin de vie. Je pense que ce serait bien de trouver un moyen d'associer les citoyens à la réflexion pour que cette question-là ne soit pas tranchée uniquement par les entreprises de technologie à qui qui on demanderait de se réguler, mais en fait, elles, leur, ça a été dit, hein, leur modèle, c'est précisément de retenir de plus en plus notre attention, donc notre addiction, donc finalement de nourrir notre addiction, et qu'on renvoie pas non plus seulement la balle aux usagers en disant, bah, régulez-vous après tout, parce que moi j'ai lu ça beaucoup comme commentaire, c'est aux personnes elles-mêmes de se raisonner, il n'y a pas besoin de les rationner d'extérieur. Moi, je pense que quand on est dans ce rapport d'aliénation, d'addiction, en fait, on a le plus grand mal à en sortir. Et donc, on a besoin d'être aidé d'une certaine façon. Et ce que je pose comme question, c'est pas tant une mesure en tant que telle que j'annonce ou que j'appelle de mes voeux. Je pose la question suivante. Que ferions-nous si nous savions que nous avions un temps contraint sur Internet et pas un temps infini? Je pense que nous l'utiliserions de façon peut-être plus sage. En tout cas, c'est mon pari positif. Hein. Et ça, ça veut dire qu'il appartient à la puissance publique qui nous représente tous de réfléchir à des mesures qui nous permettent de limiter ce temps d'écran. Et j'ai le sentiment que jusqu'à présent, aucune réponse n'a été apportée qui soit convaincante. Je veux bien croire que le rationnement à combien de gigas, d'ailleurs, l'histoire des 3 gigas dans mon texte me servait davantage à élaborer une réflexion.
A été évoqué.
Oui, voilà. Dans mon texte, mon idée, c'est de demander si on avait 3 au lieu de 150, qu'est-ce qu'on abandonnerait, quelle chose inutile, voire contre-productive, disparaîtrait petit à petit de nos vies si on avait ce type de, ouais, de rationnement. Mais encore une fois,
3 gigas, c'est pas beaucoup, hein, par rapport à l'utilisation, c'est 3 heures de visionnement de films en streaming, en gros. Donc par semaine, ça fait quand même pas beaucoup
d'intérêt. Mais bien entendu, mais vous voyez bien que l'intérêt de poser la question comme ça, c'est y compris d'interroger nos usages, par exemple, c'est d'interroger à la fois la place qu'on laisse prendre à ces entreprises de technologie qui mobilisent à ce point notre attention et à notre détriment, c'est une évidence. C'est interroger aussi la place qu'a prise dans nos vies la dématérialisation d'un certain nombre de formalités administratives, par exemple, qui autrefois se faisaient, j'allais dire, avec des agents physiques face à nous et que aujourd'hui tout passe par le numérique. Donc, on est dans des vies où on consacre à la fois beaucoup de temps aux écrans, nous autres adultes, parce qu'on fait du télétravail, parce que beaucoup de choses se font en numérique. Mais en plus de ça, c'est une charge mentale supplémentaire. Vous avez toute cette dématérialisation qui crée d'ailleurs des grosses inégalités par rapport à des gens qui sont pas à l'aise avec le numérique et qui, du coup, n'ont pas accès à leurs droits ou pas dans des bonnes conditions. Et plus, je reviens à ce numérique dit récréatif qui, honnêtement, est aussi une zone de non-droit. Enfin, vous voyez bien, il a été question à l'instant des fake news, de la désinformation. Vous voyez bien que c'est tellement plus facile de nous avoir, de nous arnaquer, de nous aliéner sur le numérique que ça met dans la vie réelle. Donc, à bien des égards, dans la vie réelle, on fait progresser le droit, les protections, la qualité de l'information, etc. Et dans la vie numérique, eh bien, on laisse la jungle s'installer et nous entraîner dans une confusion énorme.
Najat Vallaud-Blakassa, j'aurais distribué la parole. Par ailleurs, il y a beaucoup de bruit, je me permets de vous le dire, autour de vous. Renaud Éluin, première réaction à cette proposition de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale de rationner Internet. Est-ce que vous pensez, comme l'affirme Najat Vallaud-Blakassa, qu'en rationnant Internet, on va finalement vers un Internet plus intelligent? Comme elle écrit dans sa tribune, Najat Vallaud-Blakassa, la rareté oblige à une certaine sagesse. Est-ce qu'effectivement, ce serait le cas selon vous?
Alors, dans l'absolu, je ne peux que dire oui. Maintenant, on sait déjà qu'on est limité en ressources. Et c'est pas pour ça qu'on s'arrête de faire certaines choses. Donc, j'ai malheureusement pas l'impression que ça va vraiment fonctionner.
On est limité en ressources, mais il n'y a pas de degré d'interdiction. Comme il y aurait dans la proposition de l'ancien ministre de rationner, donc de limiter. Alors, on va évoquer aussi ce que revêt l'idée de limiter et d'interdire. Mais aujourd'hui, on sait que les ressources sont limitées. Malgré tout, il n'y a pas de limite fixée officiellement. Il n'y a pas de seuil d'interdiction.
C'est pour ça que l'idée de faire une convention citoyenne qui pourrait prendre ce sujet à bras le corps serait peut-être hyper intéressant. Après, il va falloir aussi agir et prendre acte de ce qui pourrait ressortir de ces conventions. Il y a plein de Il y a plein de choses qui sont... comment limiter? C'est très compliqué. Est-ce que ça passe par des gigas? Est-ce que ça passe par du temps? Qui doit faire? Est-ce que c'est à nous, encore une fois, nous citoyens, qui devons encore agir, plutôt que de ce soit les entreprises qui agissent ou que ce soit l'État qui agisse? Le sujet est vaste. Aujourd'hui, concrètement, on a déjà tous les outils pour ça. Nos appareils peuvent nous alerter en nous disant on utilise trop longtemps telle application. Certaines applications l'ont elles-mêmes faite. Si je ne me trompe pas, Instagram propose d'activer cette fonctionnalité. Donc, il y a déjà les outils. Maintenant, est-ce que c'est encore à nous de porter ça ou est-ce que c'est déjà configuré dans les applications et toutes les 20 minutes, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre en disant est-ce que vous voulez encore en rester? Il y a plein d'actions possibles. Je pense que limiter en l'état les 3 gigas, ça me
rappelle... C'était un exemple.
Oui, mais ça me rappelle le coup de Jean Covici qui nous a proposé 4 voyages par an, enfin 4 voyages dans sa vie. Dès qu'on commence à mettre un chiffre sur quelque chose, tout le monde lève les bras au ciel, les mains au ciel et ça devient l'enfer. Non. Mais c'est pas totalement... inintéressant.
Najat Vallaud-Belkacem, est-ce que vous pouvez répondre en quelques mots aux questions de base soulevées par Renaud et Luin? Qui régule pour rationner? Jusqu'où on rationne?
Moi, je constate une chose, c'est que de toute façon, on entre dans des sociétés, des économies et un monde dans lequel, ne serait-ce que du fait de la menace climatique, on va devoir repenser nos usages, nos modes d'habitation, de transport, de consommation. Et je vous donne un exemple qu'on connaît déjà s'agissant de rationnement, c'est l'exemple de l'eau. Quand, par exemple, dans certains territoires, vous avez la ressource en eau qui est... de plus en plus pauvre et ce qui pose un certain nombre de difficultés, la puissance publique arrive à demander aux propriétaires de piscines de ne pas utiliser pendant X jours le remplissage de la piscine ou l'arrosage, etc.
Donc ce serait à l'État de prendre ses responsabilités de rationner Internet.
Eh bien, moi, ce que j'aimerais, justement, c'est que ça ne vienne pas comme une mesure autoritaire directement d'un État qui sera toujours contesté. Puis on voit bien, aujourd'hui, la défiance à l'égard des institutions est telle que dès que vous annoncez que l'État pourrait vous imposer quelque chose, c'est très mal vécu, mais que ça vienne comme aboutissement d'une réflexion citoyenne qui se demande quelles peuvent être les solutions à mettre en œuvre. Et le rationnement n'est sans doute pas la seule, mais justement, laissant libre cours à l'imagination pour en trouver d'autres.
Anna Lombert, membre du Conseil national du numérique. Est-ce que le Conseil national du numérique, par exemple, qui est une instance consultative indépendante, placée auprès du ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, dont le rôle, c'est ce qui est expliqué sur votre site internet, est de conduire une réflexion ouverte sur la relation complexe des humains au numérique, donc on est en plein dedans, est-ce que le Conseil national du numérique pourrait être en charge pourrait instaurer, participer à un rationnement d'Internet?
Alors, pour l'instant, c'est pas du tout la position qu'on a prise au sein du Conseil national du numérique et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est qu'on rationne les entreprises, en fait, qui sont responsables de ces dégâts sur les esprits individuels et collectifs. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on a fait nos propositions dans le rapport que je vous citais tout à l'heure sur l'économie de l'attention, en disant, donc l'exemple des propriétaires de piscines est assez intéressant, en réalité, puisque l'idée, c'est de rationner non pas les gens qui ont besoin de boire pour vivre, si vous voulez, mais ceux qui possèdent, et accumulent de l'eau de manière plus ou moins inutile. Bon, et bien là, on pourrait reprendre cette analogie et se dire finalement, le problème, ce sont les propriétaires de ces quelques réseaux sociaux dominants qui, en fait, exploitent nos attentions, si vous voulez. Le problème, ce n'est pas qu'on ait accès à Internet, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nos esprits sont actuellement exploités par un certain nombre d'entreprises privées pour nous pousser à quoi ? À la surconsommation. Or, la surconsommation, parce que c'est quand même ça le but des modèles d'affaires basés sur la publicité, c'est de nous faire consommer. Et d'ailleurs, une chaîne privée comme TF1, par exemple, fait la même chose. Donc, c'est pas intrinsèque à Internet, ça c'est intrinsèque à ce qu'on appelle les médias ou les industries culturelles dans le contexte des sociétés de consommation, qui ont pour but de pousser les citoyens à la consommation, si vous voulez. Et c'est ça qui est toxique. Et donc, c'est contre ça qu'il faut lutter. Effectivement, si la puissance publique a un rôle à jouer, c'est ce qui est fondamental, à mon avis, la puissance publique a une immense responsabilité, eh bien, elle est, en fait, de protéger les citoyens contre l'invasion de ces entreprises privées dans leur vie intime et dans leur vie collective. Mais voilà, vous voyez, ça dépend un petit peu comment on conçoit aussi le rôle de la puissance publique. Cela dit, avoir un débat collectif sur ces questions et le modèle de la convention citoyenne, etc., me semble extrêmement intéressant. Mais peut-être qu'on pourrait aussi se demander quel numérique voulons-nous pour demain. Vous voyez ce que je veux dire ? Plutôt que de s'interroger toujours sur nos usages individuels, quel numérique voulons-nous pour demain qui soit soutenable d'un point de vue écologique et surtout qui soit un support pour l'intelligence collective, en fait, et non pas un instrument de contrôle aux mains de quelques entreprises privées. C'est ça la véritable question à se poser.
Je dirais le surfer mieux plutôt que le surfer moins.
Oui, on pourrait dire ça comme ça, ouais, d'une certaine manière.
Najat Vallaud-Belkacem s'interroge sur, finalement, plutôt que rationner Internet comme vous le proposez, est-ce qu'on ne peut pas responsabiliser davantage des géants ? Je sais que c'est un grand débat et la tâche est immense, mais est-ce que c'est pas de là d'où ça devrait partir, normalement, cette démarche ?
En fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder les quelques épisodes ces dernières années où on a essayé justement de rationner ces géants du numérique ou de les raisonner, on va dire. Et il y a un très bon exemple qui a été le monde de la presse face à ces géants du numérique. Donc le monde de la presse se plaignant de ce que ces géants du numérique reprenaient des titres ou des articles, etc., qu'ils sortaient sans véritable contrôle. Et donc, on a abouti à quoi ? On a abouti à une espèce d'accord dans lequel les géants du numérique financent un petit peu le monde de la presse, et on a eu l'impression qu'on avait réglé le problème. Mais pas du tout, parce que en réalité, le monde de la presse lui-même s'est laissé impacter et influencer par la façon dont fonctionnent ces géants du numérique. Et le monde de la presse lui-même se prête aujourd'hui au clic, en quelque sorte, c'est-à-dire à la nécessité d'avoir des titres extrêmement accrocheurs, pour ne pas dire putaclic, etc. C'est-à-dire qu'on voit que même dans un exemple où on a essayé de façon assez intéressante, en mettant tout le monde autour de la table, de dire il faut une régulation, ça va plus du tout comment ça fonctionne, cette concurrence déloyale, et bien à la fin, la presse telle qu'on la connaissait a été impactée négativement parce qu'elle a été obligée elle-même de se mettre dans les codes de ces géants du numérique, de captation d'attention, de clics toujours plus. Et donc, moi, mon sentiment, c'est que en fait, on tourne en rond en réalité en croyant que on va pouvoir se mettre dans la poche ou avoir comme acteur associé raisonnable des entreprises dont, encore une fois, le modèle n'est pas de régresser ou d'aller vers plus de sagesse. Le modèle est exclusivement celui du profit. Et si vous voulez, au détriment de tout, au détriment de notre citoyenneté, au détriment de notre intelligence aussi, au détriment du temps qu'on consacre à d'autres activités culturelles, de notre sociabilité. Donc, en fait, si vous voulez, pour moi, ce ne sont pas des partenaires à proprement parler que ces GAFAM. Vraiment pas.
Faut-il rationner Internet ? La question qu'on pose ce soir après la proposition de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, que l'on vient d'entendre. Mes deux autres invités, Renaud Éluin, vice-président de l'association Green IT, directeur de Nova Gaïa, et Anne Alombert, membre du Conseil national du numérique. Najat Vallaud-Belkacem évoquait, pour justifier justement sa proposition de rationner Internet, la difficulté de réguler les géants. Ce ne sont pas des partenaires, a-t-elle conclu la prise de parole précédente. Renaud Éluin, finalement, quand on pose la question de rationner Internet, donc d'obliger finalement l'usager à avoir une utilisation limitée à Internet, ça veut dire qu'on ne peut pas réguler les géants. Mais surtout, ça veut dire que on est incapable nous-mêmes, ça pose la question de la responsabilité individuelle, on est incapable aujourd'hui de dire stop.
Bon, déjà, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réguler les géants ? Il y a quelques semaines, le DMA est sorti.
Digital
Market
Service Act. Ouais.
Voilà. On a réussi. L'Europe a imposé à des géants d'ouvrir leur écosystème, de proposer des choses qui sont pourtant le cœur de leur métier et surtout la chose qui fait qu'ils gagnent beaucoup d'argent avec. Donc, quand on veut, on peut.
Exactement.
C'est juste qu'il va falloir peut-être aller s'imposer et on est capable d'aller imposer des choses pour la liberté d'entreprise, pour l'économie. Maintenant, il faut y aller aussi pour notre bien à tous et notre santé mentale.
Et ça peut suffire, justement, j'allais dire, pour nous prémunir face au danger de la santé mentale que représente l'addiction aux écrans et Internet en premier lieu.
Après, la difficulté, c'est tout à l'heure, l'exemple de Wikipédia est très bon. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir juger que cet Internet-là est bien, celui-là n'est pas bien, que suivant son métier, on peut passer sa journée sur Internet pour faire certaines choses et d'autres non. C'est-à-dire que certains auront un passe-droit et auront plus de quantité, temps, quoi que ce soit. La régulation, ça va être difficile. Mais je pense que, c'est pour ça que je proposerais, moi, que ce soit les géants qui soient régulés, qui s'auto-régulent, parce qu'ils ne le feront jamais voilà, mais que ce soit eux qui proposent des choses.
Anna Lombert, ça peut être la solution, selon vous? Vous y croyez?
Bien sûr, on n'a pas le choix. Sinon, on capitule, en fait. Mmh. Sinon, on baisse les bras et puis on laisse faire le marché, quoi. Mmh. Et ça, je pense que c'est irresponsable, politiquement.
Mais la régulation, elle peut être suffisante pour permettre un bon usage d'Internet aujourd'hui?
Alors, je ne sais pas si elle est suffisante, mais en tout cas, je crois qu'elle est nécessaire, si vous voulez. Ça, c'est la première chose, et j'abonde dans le sens de ce qui vient d'être dit. Elle est aussi possible. On a la preuve qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place avec le Digital Market Act, avec le Digital Services Act. Il y a aussi des régulations dans le champ d'intelligence artificielle en ce moment. Je ne dis pas du tout que c'est suffisant, mais je dis qu'il y a des démarches et que la Commission européenne, le Parlement européen se positionne aussi sur ces sujets. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, l'enjeu, ce n'est pas seulement la régulation, évidemment. Il y a tout un enjeu du côté de l'éducation. Donc, former des citoyens à vivre dans ce monde numérique, si vous voulez. Ce n'est pas seulement rationner ou contrôler les usages des citoyens, c'est aussi comprendre, que les citoyens comprennent, en fait, les enjeux anthropologiques de cette mutation, les enjeux politiques, les enjeux économiques. Donc, il y a aussi tout un effort à faire dans le champ de l'éducation aux médias, par exemple, qui est sous-développé encore par rapport aux besoins. Ça, c'est très important. Et donc, il ne s'agit pas d'équiper toutes les écoles en écran, en tablette ou je ne sais quoi, mais il s'agit vraiment de se poser la question, qu'est-ce qu'une culture technique numérique au XXIe siècle pour des citoyens à venir qui ne vont peut-être plus rien comprendre aux environnements médiatiques qui les entourent. Donc ça, c'est une question fondamentale. Et la troisième dimension, si je peux me permettre, c'est la dimension de l'innovation. C'est-à-dire, quel type d'innovation voulons-nous ? Quel type d'innovation voulons-nous porter politiquement ? Et là aussi, la puissance publique a un rôle à jouer, je suis désolée, en influençant potentiellement les entreprises, en finançant ou pas certains types d'innovation et en faisant effort, si vous voulez, pour que les innovations aillent dans le sens, justement, de l'écologie environnementale, de l'écologie mentale et de l'écologie sociale.
Dernière question, est-ce que vous trouvez que, finalement, cette proposition de rationner Internet, c'est une solution de facilité pour éviter de s'attaquer aux défis et aux chantiers que vous évoquez ?
Je dirais que si on ne s'attaque pas aux chantiers que j'évoque, à mon avis, on passe à côté du problème, on manque la source et on risque, si vous voulez, de faire de la technologie et des citoyens des sortes de boucs émissaires. Mais en même temps, je trouve que la proposition a le mérite de poser dans le débat public un certain nombre de questions qui sont très intéressantes. Voilà.
Est-ce que c'est... Il me reste vraiment quelques secondes, Najat Vallaud-Belkacem. Je voudrais terminer avec vous. Est-ce que c'est pas d'abord, finalement, votre proposition, un cri d'alarme qui interroge sur nos usages d'Internet davantage qu'une vraie volonté de rationner cet Internet? Je vais vous demander vraiment d'être bref, il nous reste quelques secondes.
Oui, vous avez raison. Et ce cri d'alarme, je peux vous dire qu'il a rencontré énormément de témoignages qui me sont remontés dans la foulée pour me dire que ce n'était plus possible, que quelque chose ne marchait plus. Et donc, je maintiens que nous avons absolument besoin de réagir rapidement.
Eh bien, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale, directrice de l'ONG One, présidente de France Terre d'Asile. Merci Renaud Éluin, vice-président de l'association Green Haïti, directeur de Nova Gaïa, et Anna Lombert. Merci, membre du Conseil national du numérique, maître de conférence en philosophie à l'Université Paris 8. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat. Hélène Avril à sa réalisation. Allez, 9h58, bientôt 59 ici à Paris. Dans deux minutes, vous retrouvez Marion Kazanov pour le journal. Et le décryptage, ce soir, on parlera des échecs. Des échecs bien plus qu'un jeu, un outil de soft power. Vous retrouverez Marion et son invité juste après Afrique Soir, la première édition. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Allez, un mot du programme de ce soir.
Alors au Sénégal, on attend désormais la composition du nouveau gouvernement dont l'annonce doit être faite d'un moment à l'autre. Nous évoquerons également le nouveau report des législatives au Togo. Nous entendrons le ministre de la Fonction publique du travail et du dialogue social et proche du président. Nous reviendrons également sur le report du dialogue national au Gabon.
Eh bien, nous serons à l'écoute. Merci Zéphirin Quadio. À tout à l'heure. Rendez-vous dans 30 minutes.